Bienvenue dans votre grande table des idées, dans l'actualité aujourd'hui de nos idées. Retour sur l'œuvre d'un penseur majeur né en 1874, mort en 1936. Le Viennois Karl Kraus, pionnier de la critique des médias, auteur des derniers jours de l'humanité. Le mal qui couvait, il l'a vu grandir dans les lieux communs et les formules figées qui empoisonnaient la langue. Fondateur de la revue littéraire dit Fackel, Le Flambeau, en 1899, il y traque les déformations et les silences des discours journalistiques. Alors pour quelles raisons s'intéresser aujourd'hui à cette figure de la modernité, autour de quelles notions fondamentales s'articulait sa pensée? Pour en parler, deux invités, l'historien et germaniste Jacques Le Rider, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, auteur d'une biographie qui fera date du dramaturge, essayiste, satiriste autrichien Karl Kraus, phare et brûlot de la modernité viennoise, biographie qui vient de paraître au Seuil. Et le metteur en scène David Lescot, pour la Comédie française, vous avez adapté Les derniers jours de l'humanité, l'œuvre phare de Karl Kraus. C'était en 2016 au Théâtre du Vieux Colombier. Jacques Le Rider, bonjour.
Bonjour.
Et David Lescot, bonjour.
Bonjour.
On commence peut-être avec vous, Jacques Le Rider, pour tenter de replacer ce penseur, ce personnage dans son époque. Un penseur viennois, c'est pas simplement une indication des origines ou du lieu où il officiait. Cet adjectif, cette destination veut dire beaucoup. Comment son destin à lui, à Karl Kraus, était lié, voire indissociable de celui de Vienne?
Oui, s'intéresser à Karl Kraus, c'est vraiment revisiter toute l'histoire culturelle et intellectuelle de Vienne. De la fin du 19e siècle, il fonde sa revue en 1899, jusqu'à 1938. Lui, malheureusement, disparaît en 1936. Mais il aura parcouru toute cette époque flamboyante. Et son destin est effectivement étroitement imbriqué avec celui de Vienne. À l'origine, la famille Karl Kraus est originaire de Bohême. Il s'installe à Vienne en 1877 et à partir de là, une sorte d'enracinement dans ce milieu qu'en même temps il déteste. Donc, le paradoxe de Karl Kraus commence là, c'est qu'il est à la fois, inamovible. On ne peut pas, lui-même ne s'imagine pas qu'il pourrait vivre et écrire ailleurs qu'à Vienne, mais en même temps, il rejette l'essentiel de ce que les contemporains considèrent comme la culture viennoise.
Oui, vous soulignez tout de suite et très vite l'ambivalence de son attachement avec l'Autriche et avec cette capitale de Vienne, un puissant sentiment d'amour-haine, écrivez-vous. Dans l'entre-deux-guerres, Vienne occupe le devant de la scène littéraire européenne et Karl Kraus en est l'une des figures, mais il va assez vite sentir le vent mauvais. Vous racontez, Jacques Le Rider, que depuis la Grande Guerre, il considère l'alliance avec l'Allemagne comme un véritable danger pour son pays et qu'après novembre 1918, il va se dresser contre l'idée même d'Anschluss, d'où qu'elle vienne. Il va faire barrage avec sa pensée et presque avec son corps contre cette idée-là. On va ouvrir peut-être aussi pour rentrer dans l'œuvre de ce penseur viennois par son œuvre phare, Les derniers jours de l'humanité, consacré à la Grande Guerre, un journal théâtralisé de la guerre, un drame anti-belliciste, écrit entre 1915 et 1917. David Lescot, vous l'avez mis en scène, ce texte, avec la Comédie française et Denis Podalydès, extrait.
Acte 3e, 1916. Vienne sur le Rhin, devant Gessir. Larves et lémures. Des groupes se forment. Un crieur de journaux. Édition spéciale. Venise bombardée. Lourde défaite des Italiens. Un deuxième crieur de journaux. Édition spéciale. 100 000 morts italiens. Un fournisseur de l'armée à un autre. Mais non, cher ami. Si vous aviez lu la Benvelade, vous n'auriez aucun doute. L'acteur comique Kramer est en tournée à Marienbad à partir du 1er. Un troisième crieur de journaux, prise de Kragujevac. Ah!
David Lescot, quel tableau peint-il de l'humanité dans ce texte, Karl Kraus ?
Une humanité qui est en train de sombrer tout entière dans l'événement le plus tragique et le plus déplorable. Et ce qui est assez marquant, frappant dans cette œuvre-là, c'est qu'il y a tous les registres en fait de ce désastre. C'est-à-dire que parfois c'est drôle, c'est grinçant, c'est très satirique, et parfois c'est complètement tragique et complètement désespéré. Il y a toute la palette des sentiments qu'un événement aussi grave peut susciter.
Jacques Le Rider, en quoi ce texte reste majeur et en quoi est-il aussi typique de l'homme qui l'a écrite ?
Oui, c'est vraiment l'œuvre peut-être la plus sensationnelle de la Première Guerre mondiale, ces derniers jours de l'humanité. Et ce que je crois on perçoit bien dans cette œuvre de Karl Kraus, c'est sa lutte contre la corruption des mots, contre l'abus de langage permanent. Et je voudrais souligner que Karl Kraus est un des premiers auteurs européens qui refuse qu'on parle, par exemple, du sacrifice héroïque ou du martyr des soldats. Il insiste sur le fait que ces soldats ont été des victimes. Il va jusqu'à suggérer qu'ils ont été les victimes d'un crime d'État. Et sa perspective n'est pas du tout celle qu'on essaye d'ouvrir aujourd'hui en disant « oui, ça a été un grand carnage, mais après ça, l'Europe a réfléchi et a construit la paix ». Eh bien, Karl Kraus, dans son pessimisme radical, est peut-être le premier qui dit que à cette guerre terrible ne succédera pas la paix, mais la fin du monde et la guerre perpétuelle. Et au fond, c'est lui qui a raison. Cette guerre n'a fait que préparer la guerre suivante. Et la paix de 1918-1919 n'a fait que préparer la guerre suivante.
Et c'est un pacifisme qui n'est pas de très bon ton à l'époque, hein, qui n'est pas très bien reçu. Quelle sera la reconnaissance critique sur ces derniers jours de l'humanité ?
Évidemment, Karl Kraus va dresser contre lui tous les bien-pensants, nationalistes, patriotiques de son temps. Mais cette œuvre est tout de même celle qui le rend célèbre dans l'Europe entière, dans le monde entier. C'est à partir des derniers jours de l'humanité, peut-on dire, que Karl Kraus devient Karl Kraus. Jusque-là, c'est un très brillant satiriste, polémiste, essayiste, auteur d'aphorismes, mais ça profondeur, il l'acquiert avec cette pièce et ça reste aujourd'hui le point de départ de toute approche de Karl Kraus. C'est vraiment sa pièce fondamentale, et s'il y a un message qui se dégage de cette pièce, c'est le rejet viscéral du nationalisme. C'est l'idée que la civilisation a pour ennemi numéro un le nationalisme. Que le nationalisme, c'est le principe de mort, c'est le principe de destruction de l'autre, mais aussi le principe de l'autodestruction.
C'est un écrivain acteur, Karl Kraus. C'est aussi un très grand orateur. Vous venez de l'évoquer, Jacques Le Rider. Il a fait des lectures publiques dans l'Europe tout entière et il faisait chaque salle comble à chaque fois. Il y a un art du mot et une passion pour le langage qui était son outil. Dans ce texte, il va rendre à chacun aussi sa manière de parler, aux militaires, au peuple, bien sûr aux journalistes qu'il croquait férocement. David Lescot, Karl Kraus, c'est une théorie implicite du langage, hein, selon laquelle l'homme pense, sent et vit dans la langue. Celle-ci porte aussi une vision du monde. Est-ce que vous, en mettant en scène ces mots, ce texte, vous l'avez perçu comme un gardien du temple, de la langue belle, ou au contraire comme le créateur d'une langue ou d'un langage qui lui était propre ?
Oui, il y a les deux dimensions, parce que c'est vrai que le naufrage de l'humanité, ça passe par une dégénérescence de la langue d'abord, de la langue donc de la pensée aussi, et du progrès intellectuel, artistique, de toute cette tradition héritée des Lumières. Donc il observe ce naufrage-là, et c'est le naufrage de la langue, et c'est pour ça qu'il s'attaque particulièrement à la presse, parce que c'est la presse dont c'est l'outil, et la presse joue le jeu justement du nationalisme et du bellicisme et du militarisme, et c'est pour ça qu'il la déteste. Il fait entrer dans la littérature aussi les langues qu'on n'entend pas, les langues qui n'avaient pas encore droit de citer, des parlers populaires, des choses. On dira par exemple que Céline l'a fait en France, mais c'est 20 ans après. Et déjà Karl Kraus le fait entendre toutes les catégories de la population, et c'est pour ça que c'est fait pour le théâtre. On peut se demander pourquoi cette œuvre monumentale a la forme, quand même, une forme de pièce de théâtre, martienne. Il le dit, c'est injouable. Il y a des milliers de personnages, il y a des centaines de scènes, ça prendrait des dizaines d'heures. Mais il le fait quand même pour le théâtre, dans la forme du théâtre, et parce que justement, c'est avec le théâtre qu'on peut avoir cet affrontement des langues et cette coexistence de toutes les langues aussi qui forment le tissu d'une société.
Un théâtre cabaret, Jacques Le Rider, il faut quand même raconter à partir de quoi il travaillait. Quelle était sa matière première ?
Sa matière première, c'est l'écoute des discours sociaux, à la fois ceux des journalistes, mais aussi ce qui se dit dans la rue, ce qu'il entend au café, ce que les hommes politiques clament dans leurs discours. Il en fait un montage, et l'art de Karl Kraus, c'est celui de la citation qui tue. C'est-à-dire que il part du principe que les points de vue qu'il attaque se détruisent eux-mêmes lorsqu'on les entend parler. Car le langage, mis en valeur par cet art krausien de la citation, se dénonce lui-même comme mensonger, comme corrompu, comme pur verbiage, comme pure phraséologie, comme pure idéologie. Et c'est ça qui est le tour de force de Karl Kraus, c'est d'avoir laissé parler le mensonge, laissé parler la bêtise, la vilainie, et les laisser se dénoncer elles-mêmes. C'est ça qui est prodigieux chez Karl Kraus, le fait que lorsqu'il cite, il n'y a plus rien à ajouter.
Ah, est-ce que c'était un trait de l'époque, ou est-ce qu'il se régalerait aujourd'hui, Karl Kraus, s'il ouvrait nos journaux ?
Il est certain que cette puissance très ambivalente du langage, peu d'auteurs du XXe siècle l'ont aussi bien mise en scène et mise en évidence que Karl Kraus, puisque la langue maternelle, c'est avant tout une force créatrice, inspiratrice, mais elle peut devenir aussi un pouvoir terrible de manipulation et de domination. Et lorsque la langue devient verbiage, phraséologie, idéologie, elle devient une sorte d'instrument de pouvoir, de dictature sur les esprits. La langue, quand elle est créatrice, quand elle est honnête, a du génie, mais quand elle est corrompue, quand elle fait l'objet d'un mésusage manipulateur, elle devient diabolique.
Vous le situez où, non seulement dans le paysage intellectuel de l'époque, mais aussi dans le paysage politique, parce que vous dites que c'était un moderne et à la fois il était très attaché aux traditions, que c'était un anti-libéral, qu'il a eu même, et on l'entend, une tentation un peu réactionnaire. Il se situait comment, David Lescot, vous le placez où?
C'est une espèce de d'auto-anarchiste, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de le rattacher à un courant politique. Il pratique son propre mouvement, j'ai l'impression. Donc on pourrait dire qu'il est anarchiste. Après, je ne crois pas qu'il ait de lien vraiment avec le mouvement anarchiste de l'époque. Mais alors sur le plan intellectuel, de la pensée, de tout ça, oui, il y a un mélange. Il est à la fois réactionnaire et moderne. C'est-à-dire qu'il va défendre des auteurs, par exemple, modernes, qui font scandale, comme Wedekind, par exemple. Il va le défendre, il va même lui permettre de donner une représentation privée de sa pièce qui sera la boîte de Pandore. Et en même temps, par exemple, il déteste un mouvement très moderne artistique qui est la mise en scène de théâtre qui est en train de naître à ce moment-là. Il y a des grands metteurs en scène, Piscator notamment, qui a voulu faire quelque chose avec les derniers jours de l'humanité. Il ne veut pas parce que ça ne lui dit rien qu'il vaille, cet art-là qui essaie de parler plus fort que le texte, justement. Donc, il y a un mélange entre ancien et moderne.
Avant de vous laisser répondre à la question, Jacques Lerider, je vous propose d'écouter Karl Kraus. Donc sa voix, vous allez voir, il était aussi très virulent, pas simplement à l'encontre des journalistes, mais aussi de la classe politique.
Vous qui avez profané le butin, qui n'avez pas achevé le mal vaincu, qui avez transformé en malédiction le bonheur de la liberté, arrivistes qui vous êtes rempli la panse, assouvissant votre gloutonnerie devant les affamés, refusant de vous écarter de la mangeoire, profiteurs du progrès que le cœur a quitté, alors que le vent du monde soufflait dans les voiles alanguies, parvenus enivrés du venin bourgeois, unis avec l'ennemi mortel, l'ennemi de la vie, fraternellement unis par le profit de la liberté, liberté supposée, plus libre et plus pure. Mon pas, ce n'est pas ce zigzag furtif. Mon estocade n'est pas ce tric-trac hésitant. Elle vise la racaille des magouilleurs politiques.
Voilà, tic-tac, cric-crac, Jacques Lerider.
En fait, Karl Kraus est une sorte d'anti-politique, anti-moderne. Il rejette la politique, mais en même temps, il se rallie de temps en temps à quelques prémices de programmes politiques qui lui paraissent prometteurs, mais ce ralliement est la plupart du temps suivi d'une cruelle déception qui se transforme chez lui en déferlement imprécatoire la politique en général et le personnel politique. En fait, la constante de Karl Kraus, c'est tout de même une sympathie pour la social-démocratie. Au lendemain de la guerre, il éprouve une profonde admiration pour Rosa Luxembourg et pour les communistes, mais en même temps, il est horrifié par les exactions qui se commettent à Budapest, par exemple, autour de Béla Kun, et il dénonce les crimes commis par les révolutionnaires communistes en Europe centrale. Donc il est extrêmement ambivalent. Il admire, il fonde d'immenses espoirs sur Vienne la Rouge, sur cette politique culturelle du gouvernement municipal socialiste à Vienne, mais au bout de quelques années, déjà, il est écœuré, très déçu, parce qu'il n'y voit en réalité que une conception petite bourgeoise, frileuse et conservatrice, qui est très éloignée de son propre idéal, qu'on pourrait appeler celui d'une révolution culturelle et morale, par les moyens du théâtre et de la littérature. Et donc, ce Karl Kraus anti-politique est en même temps une sorte d'intellectuel prophétique qui fonde sa légitimité sur l'autorité de ses écrits, sur le caractère exceptionnel de sa prose et de sa parole. On a entendu cette espèce de magnétisme qui permettait à Karl Kraus de souder une salle quelquefois de plus de 1000 auditeurs à Vienne. Mais en même temps, cette position prophétique le condamne ou l'expose en tout cas à deux risques qui sont très sensibles dans sa biographie. C'est d'une part celui d'adopter un comportement de chef spirituel d'une petite secte. Et on voit bien chez Canetti, chez le jeune Canetti, une sorte de révolte contre Karl Kraus à partir du moment où cette autorité est ressentie comme presque abusive par un disciple de Karl Kraus comme Canetti. Et puis l'autre dérive de la parole prophétique, c'est de s'exposer à être dépassé par d'autres avant-gardes. Et c'est ce qui arrive à Karl Kraus après 1933, où progressivement, il perd le magistère qu'il avait exercé pendant des décennies à Vienne et se retrouve en 1936, à la veille de sa mort, complètement isolé, un peu dépressif. Donc Karl Kraus est en même temps une réflexion sur grandeur et misère de la figure de l'intellectuel au XXe siècle. Avec cette particularité exceptionnelle de Karl Kraus, qu'il a récusé un des fondamentaux de l'histoire des intellectuels, c'est l'alliance avec la presse.
Alors, on va s'arrêter un instant là-dessus, cette critique en règle de la presse. Les journaux sont pour lui des organes corrupteurs, tenus par le monde des affaires, au service de l'argent et d'une culture bourgeoise. Il accusait la presse de préparer la fin du monde. C'est une critique en règle qu'il mène dans les pages de sa revue, dit Fackel, à traduire le flambeau ou la torche, revue qu'il a fondée et dont il va finir par noircir seul les pages, les rubriques, chaque colonne. Il va relater dans cette revue non pas l'actualité littéraire, mais les silences et les mensonges des journaux. Je vous propose d'écouter le philosophe Jacques Bouvresse, grand lecteur de Karl Kraus, auteur du mythe moderne du progrès. Se revendiquant de Kraus, il parle de la place des intellectuels dans l'espace médiatique.
Les gens comme nous sont en quelque sorte prévenus d'avance qu'ils ne peuvent rien contre un intellectuel qui est soutenu massivement par les médias. Le fond de l'affaire, c'est ça, c'est que vous avez beau être un universitaire tout à fait sérieux qui connaît parfaitement, ou qui en tout cas est censé connaître parfaitement la question, nous sommes avertis que ce n'est pas nous qui aurons raison. Kraus dit de notre époque qu'elle n'aime rien tant que le fait accompli, et en l'occurrence c'est le fait accompli de la célébrité et de l'importance médiatiquement établie. Soit une fois qu'un intellectuel est devenu médiatiquement important, c'est une chose sur laquelle on ne revient pratiquement jamais. Je me souviens qu'il y a eu une intervention de Régis Debray qui, à un moment donné, a fait la leçon à Bernard-Henri Lévy en lui disant quand même, il faut commencer par lire, il faut passer beaucoup de temps à lire, il faut lire des auteurs sérieux, difficiles, etc. Et je me souviens très bien, parce que ça m'avait frappé, il avait répondu, Bernard-Henri Lévy avait répondu, désolé, je n'ai pas de goût pour les œuvres posthumes. Donc il n'y a pas nécessairement une incompatibilité, encore une fois, entre l'honnêteté intellectuelle et le succès médiatique, mais si l'importance que vous avez est uniquement médiatique, alors il y a des conséquences qui résultent de ça, qui font que la possibilité de rester jusqu'au bout rigoureux et honnête est sérieusement compromise, et ça se vérifie, à mon sens, de plus en plus.
Ça se vérifie de plus en plus, David Lescot, dans les derniers jours de l'humanité aussi. Il montre et souligne déjà ce qui lui fait mal dans cette spectacularisation de l'info prophétique, nous disait à l'instant Jacques Le Rider. Il était assez visionnaire quand on voit ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, oui, il avait complètement anticipé le côté justement spectaculariste de la presse, de certaines manières de se mettre en scène sur l'événement, d'essayer d'obtenir des témoignages sensationnalistes, allant presque interviewer les agonisants sur le champ de bataille pour savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient. Et donc il y a un personnage qui était un peu l'ancêtre de ça, qui s'appelait Alice Chalec et qui est présente dans la pièce. Et évidemment, ça fait penser à beaucoup de choses qu'on peut voir, qu'on a pu voir ensuite et qu'on peut voir aujourd'hui. C'est assez frappant, ça, oui.
Jacques Le Rider, sur la place aussi de cette parole savante hein, des intellectuels dans l'espace médiatique, telle qu'elle était mise en scène déjà hier.
En fait, sur le terrain de la parole savante, je crois que Karl Kraus aurait battu en retraite tout de suite, parce que son propos n'est pas du tout de défendre la parole savante contre les intellectuels médiatiques. Il a en réalité horreur de l'autorité universitaire. Et dans sa revue, il accorde vraiment très peu de prix à l'autorité des universitaires. Mais je voudrais revenir au point de départ, le paradoxe qui rend Karl Kraus tellement fascinant, c'est qu'il met en question le dogme du 19e siècle sur le fait que la liberté de la presse est le pilier, le quatrième pilier de la démocratie, le quatrième pouvoir indispensable. Lui, il affirme dès les premiers numéros de sa revue que la liberté de la presse, c'est seulement la liberté de l'industrie de la presse, pas celle de la culture et de l'opinion, mais la liberté d'une industrie qui n'est intéressée que par le profit et par le pouvoir. Et ce qui fait la force de Karl Kraus, c'est qu'il pousse sa haine de la presse jusqu'à une dimension métaphysique. Pour lui, la presse est vraiment le Léviathan qui tue la culture, qui tue la civilisation, qui provoque la guerre, la destruction. Et il représente Moritz Benedict, le grand patron du plus prestigieux journal viennois, sous les traits d'un antéchrist qui jubile au moment de la fin du monde. Je crois que Karl Kraus a certainement été un des premiers au XXe siècle à montrer que la presse n'est pas une mission d'information, mais qu'elle est un pouvoir de formation. Elle donne forme à notre monde, elle donne forme à notre vision du monde et de la société, et c'est ce pouvoir de formatage, c'est ce pouvoir de construction que Karl Kraus a mis en évidence avec une force qui n'a jamais été dépassée depuis.
Et ce sont les derniers mots de la biographie que vous lui consacrez, Jacques Le Rider, Karl Kraus, phare et brûlot de la modernité viennoise qui vient de paraître au Seuil. Lui qui clamait sa haine de la presse ne pouvait pas se passer de journaux. Il accusait la magie noire de la presse de préparer la fin du monde, mais il n'aurait certainement pas du tout aimé vivre dans un monde sans journaux. À nos côtés aussi, le metteur en scène David Lescot pour son adaptation des derniers jours de l'humanité. C'était il y a 2 ans avec la Comédie française au Théâtre du Vieux Colombier.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il y a 2 dimensions essentielles aussi qu'on n'a pas encore évoquées rapidement avec vous. Jacques Le Rider, David Lescot, dans le parcours de Karl Kraus et dans sa pensée, vous racontez d'ailleurs ces 3 ruptures fondatrices. La dernière d'entre elles, c'est son rapport à sa judéité. Depuis la fin du 19e, l'antisémitisme monte. Les juifs viennois, écrivez-vous, sont considérés comme les agents d'une modernisation économique et culturelle déstabilisatrice et destructrice. Et Karl Kraus va faire son autocritique. Tenter de cerner quelle part de lui occupe son identité juive, devenant ainsi un juif rebelle aux assignations identitaires. Je vous cite là encore, il disait « Je ne renie pas tant mon propre judaïsme que celui des autres ». Tout cela, il va l'écrire dans Une couronne pour Sion, son pamphlet antisioniste sorti en 1898. Il était très opposé à Théodore Herzl. Il va quitter la communauté israélite et il va se convertir au catholicisme. Un mot de cette rupture fondamentale pour lui, Jacques Le Rider ?
En fait, Karl Kraus reste profondément convaincu de la validité de ce que Gershom Scholem dénonçait sous le nom de symbiose germano-juive. Il croit très profondément que tout ce qui introduit une séparation, un schisme entre les juifs et la société viennoise ou la société allemande en général ou les sociétés européennes est mauvais. Alors bien sûr, il condamne l'antisémitisme, mais à force de condamner les juifs comme les vecteurs et les agents de la modernisation, de la vie culturelle, de la société en général, à force d'associer les juifs à l'argent et au pouvoir médiatique, il finit par verser dans ce que j'ai osé appeler un antisémitisme culturel qui fait que Karl Kraus est certainement une personnalité très écorchée vive, bourrée de contradictions, en tout cas sur le terrain de son vécu subjectif de l'identité juive. C'est un parcours à ce titre extrêmement fascinant. Parce qu'on y voit vraiment la recherche quelquefois très douloureuse de l'identité juive.
David Lescot, autre cible pour lui, c'était les psychanalystes. Vous rapportez, Jacques Le Rider, cette formule, la psychanalyse est cette maladie mentale qui se prend pour sa propre thérapie. C'était dans Dit et contredit, l'un de ses premiers ouvrages. C'était aussi un contemporain de Freud. On va pas avoir le temps de revenir sur cette partie-là, très intéressante aussi de sa pensée, mais est-ce qu'il vous reste pour conclure l'un et l'autre l'un de ces aphorismes célèbres qui nous parlerait de lui en tête? Jacques Le Rider, David Lescot.
Le plus frappant, c'est évidemment la psychanalyse, c'est cette maladie qui se prend pour sa thérapie.
Moi, j'ai un faible pour... Si c'était pas la guerre, on pourrait franchement croire que c'est la paix. Mais on pourrait le retourner aussi dans l'autre sens.
Merci beaucoup à tous les deux. Relire ou lire Karl Kraus aujourd'hui, Jacques Le Rider, c'est important.
Oui, ça me
ça
semble,
peut nous aider à comprendre beaucoup de choses.
Ça me semble important pour réfléchir à l'histoire du XXe siècle, à l'histoire des intellectuels, à l'histoire de cette guerre perpétuelle qui a été la marque du XXe siècle. Réfléchir aussi à ce qui est peut-être la leçon fondamentale de Karl Kraus, à savoir qu'il n'y a pas de civilisation européenne tant qu'on n'aura pas extirpé le nationalisme.
Merci beaucoup. Merci Jacques Le Rider. Karl Kraus, phare et brûlot de la modernité viennoise. Votre biographie vient de paraître au Seuil. Merci à vous, David Lescot. Vous êtes en répétition en ce moment autour de la figure, non pas de Karl Kraus, mais de Nina Simone.
De Nina Simone, voilà.
Ça sera au Théâtre de la Ville, bientôt
Oui, à partir du 9 janvier jusqu'au 27 janvier.
Merci mille fois à tous les deux d'être passés autour de cette grande table. Et un grand merci à toute l'équipe, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture et l'aide précieuse de Jeanne Copé et Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Alice Seyed. Très belle après-midi à tous sur France Culture.